Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 9 mai avec le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence avec une condamnation ferme.
Un an de prison pour François Fillon dans le Penelope Gate, l'affaire qui a mis fin à sa carrière politique. L'ancien Premier ministre condamné en appel. François Fillon qui a décidé de se pourvoir en cassation, tout comme sa femme et son ancien suppléant. Le détail dans un instant avec le service police-justice. Emmanuel Macron ressort l'idée d'une communauté politique européenne, une organisation à côté de l'Union européenne afin d'accueillir de nouveaux membres sans passer par l'adhésion pleine et entière. Proposition à destination de l'Ukraine. Explication à suivre de la rédaction internationale. À suivre également défilé militaire et civil dans les rues de Moscou aujourd'hui pour célébrer la victoire de la Russie sur les nazis. Reportage de notre correspondant. L'ouverture du procès du crash de la Yemenia Airways devant plus d'une centaine de proches de victimes à Paris. La sécheresse qui frappe sévèrement la France. Il faut s'adapter, nous dira une géographe. Et puis enfin, des boules de poils pour arriver décontractés à ces examens. On vous révèle tout en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde ce soir avec Bernard Guetta, parce qu'il connaît aussi bien la Russie que l'Europe et que justement ce 9 mai, vous l'avez dit, a été une journée à deux visions du monde. Deux récits, l'un au Kremlin, l'autre à Strasbourg. Et ce sont ces deux récits que l'on découpera ensemble. Et puis 19h20, le téléphone sonne, la boule de poils. Ça nous intéresse parce qu'on va parler des premières épreuves de spécialité pour le bac. Respirer par le ventre, jeunes gens, ça va aller. Enfin, des épreuves écrites de ces spécialités propres à ce nouveau bac. Ça n'a pas été sans mal, hein, mais ça nous permettra aussi de faire un point sur les choix, les préférences et les appétences aussi des bacheliers grâce à vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
La justice s'est donc prononcée une seconde fois en faveur d'une condamnation dans l'affaire du Penelope Gate.
Oui, affaire de soupçon d'emploi fictif dans laquelle François Fillon avait déjà été condamné en première instance à 2 ans ferme. Eh bien, la Cour d'appel de Paris a donc confirmé cet après-midi sa culpabilité, mais la peine prononcée est inférieure. L'ancien Premier ministre écope ainsi de 4 ans de prison, dont un ferme, notamment pour détournement de fonds publics. Son épouse Penelope et l'ancien suppléant à l'Assemblée de François Fillon, Marc Joulot, eux sont condamnés à 2 et 3 ans de prison avec sursis. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
En direct du tribunal de Paris, tous les trois ont l'intention de se pourvoir en cassation.
Oui, c'est leur avocat qui l'annonce dans un communiqué. Les époux Fillon contestent la décision. Ils n'étaient d'ailleurs pas là pour l'entendre. C'est face à des chaises vides que le juge a annoncé les peines. Vous le disiez, elles sont moins sévères que lors du premier procès. Pour François Fillon, 4 ans de prison dont un an ferme aménageable. Ça veut dire que c'est un juge d'application des peines qui pourrait décider de le placer sous bracelet électronique, par exemple. Il est aussi condamné à 10 ans d'inéligibilité et 375 000 euros d'amende, même somme pour son épouse. Quoi qu'il en soit, ces peines ne s'appliqueront pas tout de suite. Elles sont suspendues le temps que la plus haute juridiction, la Cour de cassation, se penche sur cette affaire. Cela pourrait prendre plusieurs mois. En attendant, François Fillon, son épouse et son suppléant devront verser pas moins de 800 000 euros de dommages et intérêts à l'Assemblée nationale. C'est le coût total des 2 contrats d'assistante parlementaire de Penelope Fillon. Il y en avait un troisième, mais pour celui-ci, la Cour d'appel a relaxé les prévenus.
Mathilde Vinceneux, en direct du tribunal de Paris.
Ce devait être le point d'orgue de son offensive en Ukraine.
On imaginait un Vladimir Poutine triomphant ce lundi 9 mai, célébration de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Les chars ont bien défilé sur la place rouge face au Kremlin ce matin, avec plus de 10 000 militaires dans les rues de Moscou, mais pas d'avion dans le ciel pour cause de météo et surtout un discours sans nouvelles menaces. Le président russe se limitant à rappeler que la Russie ne faisait que se défendre en Ukraine et que son offensive était la seule bonne décision. Après cette célébration des forces armées, c'était ensuite au tour des civils de défiler, un cortège de milliers de Russes en hommage au régiment immortel, aux anciens de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le reportage de notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
Musique militaire et photos sépia par milliers dans les rues de Moscou aujourd'hui. En tête de cortège, Vladimir Poutine lui-même tenant le portrait de son père en uniforme de marin. Ariana, une étudiante de 17 ans, est venue pour la première fois.
C'est mon arrière-grand-père. Il avait 17 ans quand il est parti à la guerre. Il est allé quasiment jusqu'à Berlin. Il a été blessé et nommé capitaine-major.
Nadiejda promène, elle, le portrait de son grand-père blessé à la guerre. Cette retraitée explique ne pas comprendre pourquoi les nazis reviennent aujourd'hui.
La guerre est un grand malheur pour tous les gens. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous n'en avons pas terminé avec le fascisme. Ils sont de retour. Nous avons libéré la Roumanie, la France, la Hongrie, la Pologne et l'Ukraine. Et c'est comme si là-bas, ils avaient tout oublié. Nous, nous n'avons pas oublié.
Même incompréhension chez Nikolaï, qui ne rate jamais ce défilé.
Ce qui est très grave, c'est que nous avons tous des amis et de la famille en Ukraine. Mon nom de famille, Romanenko, est ukrainien. Et ça fait mal de voir comment, en quelques années, les gens ont rejeté tout ce que nous avions en commun. Même cette grande victoire. C'est triste et incompréhensible.
La foule était immense dans les rues de Moscou, aujourd'hui, au diapason du discours du Kremlin. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Célébration du 9 mai à Moscou, retrouvée en images sur franceinter.fr. L'Ukraine qui était aussi au cœur d'une autre célébration. Aujourd'hui, la journée de l'Europe à Strasbourg, l'occasion de multiples discours, dont celui d'Emmanuel Macron, le président français, qui a plaidé pour la création d'une communauté politique européenne. Cette nouvelle entité permettrait d'arrimer l'Ukraine à l'Union européenne beaucoup plus rapidement qu'une longue procédure d'adhésion. À Strasbourg, Marie-Pierre Vérot.
Dans un discours très ambitieux, Emmanuel Macron a en quelque sorte posé les bases d'une refondation de l'Europe. Parce que l'Union européenne ne peut être le seul moyen de structurer le continent européen, a-t-il dit, alors que l'Ukraine et tant d'autres frappent à la porte. L'Ukraine, lance le président français, est déjà membre de cœur de notre Europe, de notre famille. Mais soyons clairs, l'intégrer prendra des années, voire des décennies. C'est alors qu'il convoque François Mitterrand et sa proposition de confédération européenne faite lors de la chute du mur. Il était peut-être trop tôt, ajoute Emmanuel Macron, qui parle lui d'une communauté politique européenne.
Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques, adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses. La rejoindre ne préjugerait pas d'adhésion future à l'Union européenne forcément, comme elle ne serait pas non plus fermée à ceux qui ont quitté cette dernière.
Un appel du pied à Londres. L'Europe a conclu le président français. C'est cela, des rêves fous, des ambitions inédites. Il va maintenant falloir en dessiner les contours. Strasbourg, Marie-Pierre Vérot, Stéphane Beaufils, France Inter.
Le président français qui s'est aussi dit favorable à une révision des traités européens. Même chose pour la présidente de la Commission européenne qui précise par exemple que la règle de l'unanimité dans certains domaines clés n'a plus de sens si on veut avancer plus vite. Emmanuel Macron qui est en ce moment en Allemagne pour sa première visite à l'étranger en tant que président réélu aux côtés du chancelier Olaf Scholz. En bref, encore à l'étranger, le Sri Lanka qui ne cesse de s'enfoncer dans la crise. Affrontements violents aujourd'hui dans la capitale Colombo entre pro et anti-gouvernement, le tout sur fond de débâcle économique. 5 morts et 139 blessés. Parmi les victimes, un député pro-gouvernement qui s'est suicidé, cerné par des milliers d'opposants. Le Premier ministre du Sri Lanka a démissionné. On y revient dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Et puis le retour annoncé de la dynastie Marcos au pouvoir aux Philippines. Le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos Jr. devrait être très largement élu à la présidence avec environ 2/3 des voix selon les premiers sondages.
Aucune des victimes du crash n'a été retrouvée sauf une rescapée de 12 ans.
L'accident d'un avion de la Yemenia Airways en juin 2009 a fait 152 morts au total. Une seule survivante, une jeune fille accrochée à un débris d'avion pendant 11 heures. Le procès pénal de cette catastrophe s'est ouvert ce midi à Paris. Avec des dizaines de familles de victimes qui veulent comprendre pourquoi l'appareil s'est écrasé en mer au moment de son atterrissage à Moroni, aux Comores. Parmi ces familles, celle de 65 ressortissants français disparus dans le crash, d'où cette audience dans l'Hexagone. Beaucoup de victimes venaient de Marseille. Leurs proches tenaient à faire le déplacement pour ce premier jour. Ariane Grissel était à l'ouverture de l'audience.
Ils sont plus d'une centaine de proches de victimes à avoir pris place dans la grande salle d'audience. Certains sont partis hier soir de Marseille et ont passé la nuit dans le bus pour être là à l'ouverture du procès. Saïd Assoumani est le président de l'association des familles de victimes.
Pour nous, symboliquement, vu le temps qu'on a attendu, il fallait qu'on soit nombreux ici. Il est hors de question de mettre ça sur le dos de la fatalité ou du destin. Il faut qu'on trouve les causes, il faut qu'on établisse l'ordre des responsabilités et que les personnes qui ont fauté soient sanctionnées.
Au premier rang de la salle d'audience, Baya Bakari, l'unique rescapé entouré de sa famille. Sa mère fait partie des 152 victimes dont les noms sont lus un à un dans un silence de plomb entrecoupé de sanglots. La présidente a prévenu il y aura des moments difficiles. Youssouf a perdu son frère, sa sœur et une nièce dans l'accident. Lui aussi est venu de Marseille.
Alors, que ce soit Marseille, Paris ou à Aix-en-Provence, je trouve que j'ai le devoir d'assister pour savoir, pour la mémoire de ma famille. C'est pas facile parce qu'à chaque fois, ça remonte toujours les douleurs, mais il faut qu'on accepte et qu'on affronte toutes ces difficultés.
Le banc des prévenus lui restera vide. Aucun représentant de la Yéménia n'a fait le déplacement. Trop compliqué, dit la compagnie qui invoque la guerre civile qui sévit au Yémen.
La compagnie yéménite poursuit pour blessure et homicide involontaire. Elle risque jusqu'à 225 000 euros d'amende. À l'instant, ces derniers chiffres de l'INSEE qui prévoient une croissance de 0,25% au deuxième trimestre après une croissance nulle au premier trimestre et une inflation de 5,4% en juin prochain. On s'en est tous rendu compte cet après-midi. Le mercure a fait un bond de près de 10 degrés aujourd'hui avec des températures qui franchissent allègrement les 25 dans plusieurs régions. Un épisode de chaleur qui s'ajoute à une sécheresse déjà marquée en France. Résultat, 15 départements sont l'objet d'arrêtés de restrictions d'eau. Des événements de météo extrêmes qui vont se multiplier avec le réchauffement climatique selon le GIEC. Il faut donc anticiper selon cette géographe Magali Regezazit et maître de conférence à l'École normale supérieure.
Le mot d'ordre, c'est de s'adapter. Alors s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, évidemment, pour l'agriculture, transformer la manière qu'on a de produire et ce qu'on produit. Il faut juste rappeler hein, là qu'actuellement, tous les bassins de blé tendre de l'Europe quasiment sont touchés par cette sécheresse. Ça veut dire qu'on va avoir des rendements moindres, on va avoir moins d'épis, moins de grains sur les épis. Ces épis vont être moins bien remplis. Donc, ça veut dire qu'on risque d'avoir à un moment une répercussion sur les prix de l'alimentation, auquel s'ajoute ce qui se passe en Ukraine. On a aussi tout le problème sur les forêts. On en parle peu, mais aujourd'hui, ces forêts qui servent à stocker le carbone, qui sont très importantes pour atténuer le changement climatique, elles sont en mauvais état à cause des sécheresses. Et puis, c'est aussi des impacts sur les maisons. Beaucoup d'auditeurs sont peut-être confrontés au problème du retrait gonflement des argiles avec des fissures. Donc s'adapter, c'est pas uniquement mettre plus d'eau, faire des stockages d'eau ou des bassines, c'est vraiment transformer l'ensemble de nos infrastructures, de nos bâtiments pour avoir le moindre dommage possible.
La géographe Magali Regezazit avec Sandy Dauphin.
Et puis on termine, Sébastien, avec les premières épreuves du bac 2022.
C'est parti pour les épreuves écrites de spécialité. Elles auront lieu mercredi, jeudi et vendredi. Une première pour plus de 520 000 lycéens. Les épreuves, on le sait, ont été reportées à cause du Covid. Elles ne seront donc pas prises en compte dans Parcoursup. Et il y en a d'autres pour qui le stress monte également. Les étudiants qui passent en ce moment leur partiel. Alors pour se détendre, la ville d'Angers teste un nouveau dispositif dans sa bibliothèque universitaire. Ça s'appelle la médiation animale, une séance de caresses entre chiens et étudiants à laquelle a assisté Lucie Rispal.
Donc là, on a Lottie, une labrador qui a 6 ans, et en dessous, c'est Reiko, qui a 1 an.
Avant d'être médiatrice animale, Sophie, 31 ans, était infirmière. Lorsqu'elle arrive dans la bibliothèque, elle ne passe jamais inaperçue avec ses chiens en laisse.
C'est tout le temps un peu l'émerveillement, les chiens qui arrivent.
En licence d'anglais, Emea, 20 ans, vient se ressourcer en câlinant les deux chiens. Même si elle en plaisante aujourd'hui, elle a souffert de dépression pendant les confinements.
Je suis heureuse, la dépression je ne connais plus, les révisions non plus. On va être de bonne humeur et on va envie de travailler parce qu'on est apaisé. Enfin, je trouve que c'est vraiment apaisant.
Au-delà des examens qu'il faut préparer, certains étudiants ressentent le besoin de tromper leur isolement. L'éloignement familial est pesant. Caroline, 22 ans.
Toute la nature, les chiens qu'il y avait normalement chez mes parents, j'ai été complètement séparée de ça.
La présence d'animaux de compagnie sur ce campus, c'est un moyen de déconnecter les étudiants de leur monde virtuel. L'initiative a été lancée en 2019 par Nathalie Clot, directrice des bibliothèques d'Angers.
Revenir au contact, au toucher, à regarder, à se regarder les uns les autres, il se joue quelque chose de très très fort et de très très simple.
Depuis le début du projet de médiation animale, c'est une vingtaine de chats, chiens et cochons d'Inde qui a déjà aidé les étudiants à passer les partiels plus sereinement.
Voilà, parfaitement élevé ces chiens, vous l'aurez remarqué Fabienne. Pas un seul aboiement, c'est remarquable.
Oui, bon, voilà. C'est des faux chiens, je suis sûr. Merci beaucoup.
Des vrais poils.
C'est oui, des vrais poils, merci. À tout de suite, bien sûr, dans Un jour dans le monde, Sébastien. Avec Sous les radars, vous nous emmènerez sur le continent perdu qu'est l'Atlantide, qu'on a donc enfin retrouvé à 3000 mètres sous la mer. Eaux. Et c'est bien. Le bruit du monde ce soir, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet, comme chaque lundi. Et puis, on comparera les 2-9 mai que nous avons vécu aujourd'hui, celui du Kremlin et celui de Strasbourg. En deuxième heure, à partir de 19h20, je vous le remets dans l'oreille, c'est le téléphone sonne, on passe le bac ce soir. Enfin, les premières épreuves de spécialité passées à l'écrit. Enfin, puisque ça fait 2 ans, pour cause de Covid, que les lycéens sont contraints de s'organiser différemment. L'organisation, d'ailleurs, cette fois n'a pas été sans heurts ni sans protestation, mais on verra tout ça ensemble, évidemment, dans un tout petit instant, avec vos questions. Ça se passe au 01 45 24 7000.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Merci beaucoup. Élodie Callac, pardon, j'ai encore oublié votre feuille, mais pas du tout. Elle est devant moi. Comment allez-vous?
Très bien.
Voilà, bien. Encore une journée d'été pour demain.
Exactement, avec le matin des températures un peu justes, hein, souvent 8 à 14 degrés. L'après-midi, des températures chaudes pour la saison. 30 degrés attendus à Bordeaux, 28 à Tours, à Lyon ou Albi, 27 degrés à Paris, Reims, Mulhouse, Nevers et Limoges. Il fera 26 degrés à La Rochelle, à Marseille et un petit peu moins chaud près de la Manche, 17 à 24 degrés.
Et beaucoup de soleil.
Oui, partout. Alors quelques nuages bas sur les côtes de l'Aquitaine, du Languedoc ou de la Corse, juste le matin. Quelques nuages d'altitude viendront parfois blanchir le soleil du nord-ouest aux frontières du nord le matin, puis des Pyrénées au nord-est l'après-midi. Et puis sur l'ouest de la Bretagne, ce sera plus nuageux puisqu'une perturbation très atténuée s'invitera et apportera 3 ou 4 gouttes.
Et ben voilà, merci beaucoup Élodie Callac de Météo France. On se retrouve tout à l'heure après 19h.